Elle a enlevé son
Oui,
fond. Voilà,
toujours
c'est bon.
là. Donc Alexandra, je vous fais une première présentation de ce que j'ai retenu hein, des sessions. Et puis si vous avez des compléments, non, je pense qu'on a peut-être des visions complémentaires qui permettra à l'Assemblée d'avoir des idées de ce qui a pu être partagé donc avec le dicaster donc sur quatre séances le jeudi de 16h à 17h30. Donc avec une quarantaine de participants des cinq continents. Avec
Alors, ça veut
Santiago,
dire quoi, la web ouverte?
visioconférence.
C'est un séminaire par Internet,
Voilà.
web.
Et je pense, mais j'en parlerai avec Pascal, que sur la chaîne YouTube, ça a été enregistré, donc on devrait pouvoir récupérer. Là, on verra
D'accord.
comment on veut. Alors, quelques remarques que j'ai repris à mon compte, peut-être par rapport à ce qui se vit en France. J'étais étonné de retrouver Spécial Olympique International comme invité, donc par le dicaster de Rome. Alors, en quoi j'ai été interpellé, c'est que, bon, Spécial Olympique, hein, c'est un organisme qui fonctionne depuis une quinzaine d'années en France et qui a une autre façon de voir. Alors là, je reprends la définition du sport en lien avec la question d'Alain, qui s'intéresse aux activités physiques adaptées de façon un peu différente de la Fédération française du sport adapté et de la Fédération handisport. Donc Spécial Olympique, c'est une entreprise. Spécial Olympique irradie partout dans le monde. Et je me suis demandé pourquoi Spécial Olympique avait été invité par les collègues du Vatican. Donc je poserai la question à Santiago. Mais en tout cas, j'ai relevé trois mots hein, présentés par je ne sais pas si c'est le directeur général ou le président du Special Olympics. C'est play, joy, spirituality. Depuis, j'ai été interviewé mes collègues Special Olympics France. J'ai pas eu le même, mais ça me fait dire peut-être par rapport au réseau Église et Sport, c'est peut-être de voir comment on pourrait recontacter. Cette personne, et après voir au niveau français hein, comment cette dimension spirituelle peut être abordée. Donc, ça fait partie pour moi des bonnes surprises hein, de considérer que peut-être on parlait du handicap hein, hier, de considérer que Special Olympics peut être aussi peut-être un partenaire intéressant à contacter. Deuxième point, alors c'est aussi en lien avec ce qu'on échange depuis hier, de considérer que par rapport aux Jeux Olympiques, Tokyo est symbolique. Tokyo a été choisi trois fois pour organiser les Jeux Olympiques d'été. Vous vous souvenez des dates?
1960, 64,
64.
72, non,
Donc
60,
2000,
60,
2020.
pardon.
Et 1940.
Ah oui, ça n'a pas eu lieu en 40.
Ça n'a pas eu lieu en 40. Donc pour la deuxième fois, Tokyo fait fort, hein, c'est-à-dire que hein, elle n'est pas en capacité de, hein, mais bon, pour des bonnes raisons, hein, c'est pas des bonnes ou des mauvaises. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à Tokyo, mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, on a à s'intéresser à Paris 2024, on doit s'intéresser à la génération 2024. Mais on est aussi, de façon très contemporaine, à s'intéresser à la génération 2020 qui va être obligée, quelque part, de devenir une génération 2021, et puis aussi de s'intéresser à la génération 2022 pour ce qui concerne les Jeux Olympiques d'hiver. Et peut-être de voir en termes de pastorale du sport comment les Jeux Olympiques d'hiver peuvent être aussi. Hein, des lieux intéressants, même si ça n'a pas lieu en France, des lieux où la pastorale du sport peut être présente. En sachant que Pékin n'est pas un choix anodin, hein, puisque Pékin a organisé les Jeux Olympiques d'été et est en capacité d'organiser les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, Joël, tu étais à Pékin? Non, tu étais à Pékin? Est-ce que les montagnes sont loin de Pékin ou... Mais en tout cas, voilà, c'est le choix de Pékin est un choix quand même.
Et sur le petit jet de Pékin, Beijing, c'est très loin.
Oui, mais donc voilà,
Les
c'était
Chinois, c'est la marche.
Mais par rapport à ce qu'on a dit ce matin, enfin, je repense que tu l'avais dit, on a aussi la génération hein, de 2022 là, qui va être sûrement impactée par, hein, par le coronavirus. Et donc, on a aussi peut-être un travail, hein, un travail à faire avec, avec bien sûr 2024, mais aussi hein, les JO qui viennent. Alors, autre remarque que j'avais envie de faire par rapport aux différentes sessions liées à la pandémie, mon hypothèse est de considérer qu'il y a des séismes qui voient leur puissance augmenter avec l'apparition du Covid. Ce qui signifie que les séismes existaient avant. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Hein, que... Alors, exemple, Mediapro avec la Ligue française, la Ligue du football professionnel. Le Covid n'a rien à voir avec Mediapro, mais de voir qu'il y a des phénomènes qui vont s'amplifier par rapport à ça, par rapport à la gestion économique des clubs. Hein, et que ça, ça interpelle. Enfin, en tout cas, ça interpelle les clubs. Deuxième point, alors moi, qui concerne l'une de mes passions. Alors, petit clin d'œil à Alexandra, je vais raconter un petit peu ma vie. Pierre, j'ai fait mon service militaire à l'école des troupes aéroportées de Pau. Et quand Alexandra a parlé de l'aumônerie des armées, je me souviens qu'à l'époque, je me suis trouvé de devenir secrétaire de l'aumônerie. Et je me dis, ben finalement, parce que je me pose la question, qu'est-ce que je fais dans l'enseignement catholique depuis 40 et quelques années? J'ai toujours posé la question, mais j'y suis bien. Et je me dis finalement que cet aumônier avec qui on a très peu parlé de pastoral, mais beaucoup parlé de parachutisme, et avec qui on a accompagné des parachutistes qui se sont tués en pratiquant le parachutisme, sûrement que cette personne a été aussi à une rencontre étonnante. Donc voilà, c'était le clin d'œil à Alexandra sur le lien qui peut exister entre l'aumônerie des armées et l'aumônerie du sport. Bon, ça m'interpelle. Voilà, j'ai découvert la région de Pau pendant un an. Hein, il y a déjà deux. Alors, deuxième passion, bon, c'est le rugby. Et il y a beaucoup de croyances qui se sont achevées après le match France-Écosse, hein, il y a quelques semaines, quand j'ai appris que France-Irlande était annulée. Parce que c'était impossible. On a joué France-Écosse et donc 5 jours après, hein, donc France-Irlande devait avoir lieu. Et vous vous souvenez comment ça s'est passé, il fallait, et sûrement à juste titre, hein, il n'y a pas de... Et donc demain a lieu un match France-Pays de Galles avec un psychodrame qui, pour moi, interroge la valeur qu'a le joueur de rugby entre le joueur de rugby et les clubs. C'est-à-dire entre des dimensions économiques et des dimensions qui sont sportives. En tout cas, de considérer que la Covid remet, pour moi, remet à la lumière des choses qui ne sont pas réglées entre la Fédé, la Ligue, les clubs, le top 14, le tournoi destination, et que l'une des questions un peu polémiques que je propose, c'est qui a intérêt que les clubs de rugby professionnels disparaissent? Alors bien sûr, la Covid, hein, c'est pas elle qui va les faire disparaître, mais il y a des enjeux là qui se réveillent, et je pense qu'à Clermont, on est aussi concerné par ça. Autre piste que je mets à la sauce francophone, c'est que jusqu'au 1er avril, il y a une réélection des présidents des fédérations, et il va y avoir une élection d'un nouveau président du Comité national olympique. Et que, je ne sais pas si vous percevez, chacune dans vos fédérations, combien il y a certaines élections qui sont rudes. Hein, c'est-à-dire que ça ne se fait plus, on va dire peut-être secrètement, de façon très, très soft, mais là il y a des listes et contre-listes qui pour moi témoignent aussi comment je vais appeler ça, des appétits liés au JO 2024. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Hein, c'est là. Ce que je veux dire par là, c'est que 2024 va aussi favoriser une évolution des modes de financement. Et on a un bon exemple par rapport à 2012, par rapport à Londres, où l'État anglais ou l'État britannique a vraiment changé les tuyaux de financement du sport et de l'éducation, et que là, il y a aussi d'autres enjeux qui se mettent en place par rapport au financement du sport, de l'éducation et de la santé. Donc ça, j'ai remis ça un peu à la sauce de ce qui se passe en France, avec l'idée que voilà, la Covid peut être quelque part révélateur de fractures hein, ou de fossés qui peuvent exister. Alors les fossés qu'on a pu relever donc, lors des différents séminaires, c'est que grâce ou à cause de la Covid, on peut observer des fossés qui apparaissent parce qu'il y a des ponts qui ont disparu. Les fossés existaient déjà, mais hein, alors si je peux me permettre une formule, alors je m'essaye au latin hein, comme tu l'avais fait. Comment on pourrait retrouver des pontifex solides? Hein, donc, alors les pontifex, je le vois en trois les générations. Hein, donc vous entendez bien le discours. Les jeunes par rapport au Covid ne sont pas exposés de la même façon que les plus vieux. Ça fait quand même un sacré fossé. Hein, quand on parle des étudiants, quand on parle de tout ça, ça crée un autre regard sur ce que j'appellerais les fractures qui peuvent exister hein, dans la société. Fossé entre sport amateur et sport professionnel. Sport amateur, on vous ferme les gymnases, on vous ferme, etc., etc., etc. Sport professionnel, bien évidemment, le Tour de France a eu lieu. Et bravo aux organisateurs pour avoir permis au virus de ne pas s'attaquer aux produits dopants utilisés par les cyclistes. Hein, c'est peut-être mais en tout cas, de considérer que par rapport au Giro, par rapport à la Vuelta, hein, il y a quand même des méga événements qui ont eu lieu alors que la situation est extrêmement critique. En tout cas, ça fait un fossé hein, entre les règles qui sont imposées au sport amateur et ceux qui sont induits par les sports professionnels, où effectivement la notion économique hein, elle est fort présente. Et puis, dernier fossé qui pour moi existait déjà, c'est la dimension bénévole et professionnelle. Alors, on en a parlé un petit peu ce matin, en considérant aussi que dans l'évolution, alors ça m'est venu quand tu en as parlé ce matin, hein, c'est qu'il y a aussi une dimension qui est apparue chez les dirigeants et chez les entraîneurs, c'est-à-dire que le statut de professionnel a remplacé petit à petit la notion de bénévolat. Alors dans le sens où tu parlais de 96, hein, qui a été c'est toi qui parlais de 96. Oui, ce
Par
matin.
rapport à Coca-Cola,
Oui, c'est
par rapport
ça.
au jeu,
Oui. Voilà.
excusez-moi.
Donc 92, hein, je dirais, il y a la Dream Team de basket qui est arrivée aussi, où là, il y a vraiment une autre dimension hein, qui fait que la notion d'amateurisme a été... Voilà, donc je pense qu'avec le Covid, on va voir à nouveau des fossés se mettre... Voilà, ça c'était par rapport à l'aspect français, donc je vais reprendre des points qui sont plus donc diapo suivante.
Ça m'a zappé la première.
Alors, non, c'est bon.
C'est bon.
Oui. Donc les questions, donc je ne vais pas apporter toutes les réponses là, mais c'est de considérer, alors je le mets sous la formule point d'interrogation, mais je le proposerai en termes d'affirmation, à savoir que les spiritualités sportives, bon j'utilise le terme spiritualité, les spiritualités sportives et les cultures sportives sont deux facettes du phénomène humain qui sont convoquées par rapport à une crise existentielle que peut avoir une culture et aussi les membres de cette culture. On reviendra sur l'idée de fragilité tout à l'heure, mais en tout cas de considérer que le webinaire a été l'occasion effectivement de parler de cette notion de crise existentielle que peuvent vivre les personnes dans leur chair, avec l'idée, bon, je ferai, de considérer que le sport c'est la vie, mais le sport peut aussi provoquer quelque chose hein, qui ne conduit pas à l'aide. Deuxième thème, c'est de considérer que la Covid peut mettre en exergue la notion d'inachèvement d'une trajectoire sportive. Alors, inachèvement d'une trajectoire sportive, vous avez tous ceux qui étaient programmés pour l'été 2020, hein, de considérer qu'ils étaient programmés depuis 2-3 ans, et de considérer que là, il y a un phénomène d'inachèvement qui les met en difficulté. Alors, on avait précisé ce matin les dimensions économiques, les dimensions vraiment de la vie contemporaine, mais qui, quelque part, vont leur permettre à leur corps défendant de vivre une crise qui peut-être, alors c'est une vision très optimiste que je propose ici, mais là je serai un petit peu, alors je sais pas si bon, mais je rejoindrai un petit peu ce que tu as dit ce matin sur l'idée que quelque part en phénomène de crise, on peut quelque part, alors j'appelle ça se rapprocher de l'épicentre du bonheur. J'ai parlé de séisme, hein, je parle d'épicentre du bonheur au cœur d'un nouvel hymne de l'univers sportif qui est en train de se métamorphoser sous nos yeux. L'économie du sport, là pendant les quelques mois qui vont venir, va démontrer une certaine fragilité. L'économie du sport, c'est pas simplement l'économie pour l'économie, c'est aussi tous les financements qui accompagnent. Hein, le support logistique des athlètes qui vont être concernés par l'organisation de performance optimale. Donc j'ai relevé un petit peu ces deux questions hein, qui étaient transversales durant ces quatre points. Diapo suivante. Alors, ça nous a amené aussi à nous intéresser à quelques textes. Alors, donner le meilleur de soi-même, Pascal en a parlé. On peut considérer que, alors la force dans l'épreuve, c'est un petit fascicule qui est paru, je crois qu'en mai, donc c'est qui reprend un peu les différentes, je sais pas si le terme est exact, de l'homilie du pape par rapport à la Covid, hein, donc où il reprend un petit peu l'idée que la Covid peut être un merveilleux moment, je mets des guillemets, pour retrouver de la force dans l'épreuve qu'on est amené à vivre. Et même si le mot sport n'est pas forcément présent, on a peut-être à retrouver quelque chose hein, dans ces textes. Troisième point, j'ai pas encore tout compris de Laudato Si, donc je le remets parce que il me semble que dans la notion d'écologie corporelle intégrale, on a peut-être aussi à intégrer ce qui se vit actuellement pour relire et compléter hein, ce qui a déjà été écrit quelques années auparavant. Et puis un dernier point. Que je n'ai pas encore lu, je me dis, on a parlé hein, hier ou ce matin, hein, Fratelli Tutti, la fraternité, je pense que ça nous concerne également, et de considérer que peut-être par rapport à ce texte, le sport ou les activités physiques ont peut-être une place pour donner du sens donc à ce texte. Et puis j'ai mis des points d'interrogation, donc depuis hier, vous avez aussi vous-même hein, des références que je n'ai pas forcément, et peut-être quand je parlais dans les objectifs du congrès, peut-être de se faire une bibliographie hein, de tous les textes, effectivement, qui peuvent être l'occasion pour nous de décliner le sport à travers ces dimensions. Hein, peut-être n'hésitons pas hein, donc à mettre dans le pot commun. Alors bon, Pascal est déjà fort œuvré hein, sur le site Église et Sport, mais si vous avez des bonnes idées, hein, je crois que ça peut être l'occasion de... Ça va comme pub. Diapo suivante. Alors, là, j'ai repris des passages aussi du texte sur donner le meilleur de soi-même et puis d'autres approches, à savoir que, en situation de crise, c'est de voir comment on peut reconnaître la beauté de la création de nouvelles formes de gestualité sportive, même quand on est isolé, même quand on est dans des situations inédites. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'hip-hop, on a parlé de la breakdance, de toutes ces cultures qui se sont créées et qui ne sont pas forcément des sports. Alors, après, on peut définir les sports de différentes façons. Alors, la définition la plus ancienne que je connaisse, c'est un sport, c'est une activité physique compétitive où il existe une fédération nationale et internationale. Le hip-hop, breakdance, ça rentre pas dedans, mais néanmoins, on peut considérer que hein, il y a une forme de compétition, une activité physique. Et la fédération, c'est une forme, en tout cas, c'est une forme de communauté qui a ses propres règles. Hein, donc le.
Mais la danse, c'est une fédération.
Oui, la danse, oui.
Et c'est pas considéré comme un sport, ça dépend de la culture.
Alors, est-ce qu'il y a une fédération de.
Il y a une fédération française de danse qui organise les concours d'Europe, qui
Bonjour, alors
ça.
Voilà, merci d'anticiper. Mais en tout cas, effectivement, c'est pas une activité qui est devenue, enfin, qui est pas considérée comme sportive, mais plutôt comme culturelle hein, et artistique. Hein, pour reprendre, voilà. Artistique, hein, c'est là. Alors, la Covid, alors on redéfinira peut-être la notion de pastorale du sport hein, d'ici demain, mais peut être l'occasion de voir comment les sportifs que l'on accompagne peuvent discerner ce qu'on appelle un chemin d'excellence. C'est-à-dire, effectivement, le sport n'est plus là pour démontrer ma performance, mais ça peut être aussi l'occasion pour ces personnes de découvrir une autre facette, hein, qui ne se serait pas révélée sans l'apparition du virus. Alors, ma vision peut être optimistique, hein, comme disent les anglo-saxons, mais c'est aussi peut-être une dimension que j'avais envie de partager avec vous dans ce que j'ai pu écouter. La troisième perspective, c'est cheminer vers la plénitude d'une expérience corporelle. Donc là, on n'est pas dans le sport, on est vraiment dans la notion d'expérience liée au corps. Alors, en vivant le complexe du hérisson, vous voyez ce que c'est que le complexe du hérisson, hein, c'est qu'il a envie d'être touché par les autres, mais qu'en s'approchant des autres, les autres le repoussent. Bon, ça fait partie aussi de notions existentielles, hein, qui peut exister, hein, sur le fait que par rapport à la Covid, à la notion d'isolement, hein, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire, je peux avoir envie de me rapprocher des personnes et de s'apercevoir que il y a plein. Alors, si je suis âgé, si je viens de tel endroit et tel endroit, hein, il y a ce phénomène qui se produit. Alors, comme il est à ma droite, hein, je lui envoie un message, hein, c'est-à-dire que bon, Pascal, contre vent et marée, bon, a considéré que, effectivement, bon, je l'ai accompagné là-dessus, hein, c'était impensable, hein, d'annuler, hein, ce séminaire, alors qu'effectivement, d'un point de vue très raisonnable, on aurait pu très bien rester chez soi et puis faire le. Mais je pense que ça a une autre dimension, hein, de vivre de près le complexe du hérisson. C'est-à-dire, on est à la fois loin et puis ça nous empêche pas de nous rapprocher. Alors peut-être on a un travail au niveau francophone, peut-être sur caractériser les vertus des spiritualités sportives. Alors effectivement, l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure définit très bien la spiritualité sportive avec certaines références que j'appelle anglo-saxonnes, mais peut-être on a aussi au niveau francophone à communiquer, hein, quelque chose sur cette dimension. Et puis un dernier point, c'est ce que j'appelle la quête du sens ultime. Alors ça rejoindrait un petit peu, Joël a parlé de soins ce matin, donc par rapport à la notion de pastorale, alors en tant que psychologue, je suis amené à être confronté avec ce qu'on appelle la pastoral psychology, dans le sens où la psychologie depuis 1880, si on est passé des choses dans les années 1880, la psychologie s'est créée en s'intéressant au mind et en disant le spirit, c'est pas notre domaine. Oui, tu l'as bien décrit ce matin. Hein, ça veut dire que la psychologie disant que le spirit, c'est pas notre domaine, on s'occupe que du mind, il faut peut-être aussi s'intéresser, hein, à la spiritualité. Et donc, on se retrouve en Europe avec cette dimension de pastoral psychology qui peut être un pontifex intéressant sur. Et je raisonne sur ce que tu as dit ce matin. Et sur le soin spirituel, là, ça rejoindrait un petit peu la connexion entre psycho de la santé et la pastorale de la santé, grâce aux Canadiens qui développent la notion de soins spirituels dans les hôpitaux, et cette notion de soins spirituels commence à avoir sa place en France dans les hôpitaux, sur cette dimension où les aumôniers de santé et les psychos peuvent être amenés à échanger de façon intelligente. Donc là, je ne dis pas que les aumôniers ne sont pas intelligents, je dis que les psychologues sont un peu plus intelligents. Ça va de façon diplomatique, hein, sur les. Parce que du point de vue de la psychologie, c'est pas évident non plus, hein, de s'ouvrir vers cette dimension. Voilà, donc c'était un peu cet aspect de voir comment on pourrait identifier les contours d'une pastorale du sport à l'ère de la Covid et après la Covid, en considérant que, alors là c'est une hypothèse que je fais, c'est que rien ne sera comme avant. Hein, ça, bon, ça c'est. Ben, vous êtes déjà au courant, hein, que quand il y a une crise, hein, le passé est le passé et qu'il va y avoir des nouvelles formes, hein, de pratiques sportives qui vont exister. Et puis là, je fais un petit clin d'œil à Pierre Teilhard de Chardin. Donc on n'a pas été sur ses pas, hein, de façon moteur, mais pour parler de la croyance en avant, hein, qu'il développe un peu dans ses travaux, dans ses réflexions. Diapo suivante. Donc là, on va retrouver, hein, des notions qu'a abordées qu'a abordé Pascal et qu'on a retrouvé durant la visioconférence, c'est de considérer qu'on a à s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le don du meilleur de soi-même. Dans le domaine du sport, en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète, en tant que dirigeant, en tant qu'arbitre, en tant que... Donc dans des espaces culturels complémentaires où la notion d'excellence est assimilée à la nécessité d'un dépassement de soi et avec peut-être l'interrogation de si on dépasse le soi, vers quelle dimension anthropologique on va quelque part accéder. Alors, je pense que vous avez des réponses par rapport à ça, mais c'est de considérer que pour moi la notion de dépassement de soi n'est pas suffisante en elle-même. C'est aussi permettre aux personnes qui vont au-delà du soi, d'être accompagné dans des dimensions qui ne sont pas si faciles à vivre quand on est confronté à celles-ci. On a été aussi amené à identifier les dimensions interculturelles qui favorisent des rencontres entre pastorale du sport, pastorale de l'éducation, pastorale de la santé, et avec la Covid, on est quelque part présent dans ces dimensions. Alors notamment dans la question... on a pu échanger avec Philippe Michel, hein, c'est ça, c'est son prénom. On avait échangé en préparant le congrès sur finalement qu'est-ce qui est en train de se passer entre l'éducation physique au sein des collèges, des lycées et des écoles primaires et une éducation sportive au sein des associations sportives. Le fait que le ministère des Sports retrouve le ministre de l'Éducation nationale comme pontifex, hein, si je peux parler de cette manière, n'est pas anodin. Hein, dans l'histoire de l'EPS, hein, c'est une dimension qui va nous obliger à sûrement nous intéresser à cette pastorale du sport, de l'éducation et de la santé, non pas comme trois domaines très différents, mais peut-être avec des ponts tout à fait intéressants. Donc, bien évidemment, on a été amené à rappeler que les pratiques sportives s'insinuent dans des systèmes culturels complexes où les dimensions corporelles et spirituelles du phénomène humain sont bien évidemment présentes. Hein, donc, c'est pas un scoop, hein, vous êtes déjà au courant avec ça. Mais je pense qu'avec le Dicaster, c'est des dimensions qui peuvent être développées et peut-être nous, en tant que francophones, donc je m'adresse aussi à Alexandra, en tant que francophone, on a peut-être des témoignages et des paroles à communiquer, pour reprendre ce terme de communication. Je suis assez intéressé par ce que j'appellerais l'écologie corporelle, c'est-à-dire que dans une éducation, dans une écologie intégrale, de voir comment on nomme l'écologie corporelle, qui peuvent s'incarner dans des logiques de développement durable incarné, c'est-à-dire que, bien évidemment, l'écologie, c'est tout l'environnement qui nous concerne, mais aussi de considérer qu'il y a un environnement intérieur qui existe, qui est ce qui se passe à l'intérieur du corps, d'un point de vue physio, d'un point de vue bioméca, d'un point de vue spirituel, qui est aussi à prendre en compte, et que peut-être avec l'accompagnement des personnes, éduquer les personnes aux environnements macroscopiques, c'est à faire, mais il y a aussi une éducation corporelle à proposer pour que cette écologie corporelle prenne du sens pour chacune des personnes à chaque âge de la vie. Et puis, dernier point, donc, on a été amené à parler d'inclusion, d'inclusion culturelle authentique, de mettre en avant ce qu'on appelle dans le domaine des activités physiques adaptées, les dimensions déficitaires et capacitaires du corps humain. Alors, des dimensions déficitaires, vous voyez ce que ça veut dire, la personne a un déficit, mais en même temps, on s'aperçoit que le déficit va créer chez elle des capacités qu'elle n'aurait pas forcément développé si le déficit n'était pas là. J'ai croisé le regard de Pierre et il m'a dit, il vient de me dire, rappelle-toi ce que j'ai dit hier soir, hein, par rapport au tennis, hein, c'est-à-dire, alors, je ne sais pas si c'est pertinent, mais que chaque tennisman a des déficits, soit physio, soit en termes de préférence, etc. Et que, on va dire que certains sportifs ont la capacité de transformer des déficits en capacités qui vont quelque part les mettre dans une position haute et non pas dans une position, hein, dans une position basse. C'est aussi ce qu'on a abordé hier avec la rencontre entre les valides et les non-valides. Hein, qu'est-ce qui fait que certains non-valides, en termes de pratiques sportives, réalisent des situations extraordinaires hein, qui se sont révélés parce que hein, ce déficit existait. En tout cas, de voir comment on peut réinterroger la notion de déficit, voire réinterroger la notion de handicap, et de considérer que peut-être nous sommes tous vulnérables, et c'est peut-être dans la vulnérabilité qu'il y a quelque chose hein, qui peut évoluer. Et puis pour conclure, alors deux formules que je vous propose, alors que j'ai repris depuis alors bien avant les webinaires, mais ça peut être un peu renforcé bon, ma proposition, c'est grâce à la Covid, bon, aimons et apprécions l'ignorance de l'avenir. Et là, on a parlé d'incertitude. Effectivement, la vie sportive est incertitude, mais que effectivement, c'est très stressant à vivre. Mais que quelque part, je considère que c'est presque une compétence supérieure, quelque part, d'accepter qu'on puisse programmer quelque chose et que la notion de glorieuse incertitude du sport fasse partie un peu de notre croyance. Alors, pour entendre le nouvel hymne de l'univers sportif, hein, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va le reconnaître, mais en tout cas, de considérer que l'une des questions, c'est Tokyo 2021, oui ou non. C'est pas rien. Hein, c'est pas dit que la culture japonaise, hein, c'est-à-dire non pas les décideurs, mais les Japonais acceptent, selon l'évolution, d'organiser. Alors que pour l'instant, on n'a aucun scrupule à considérer que le match France-Pays de Galles est indispensable à la survie rugbystique de Bernard Laporte. Excusez-moi, j'ai plus.
Ça
devient
politique.
Hein, mais en tout cas, de considérer que sous nos yeux, il y a des évolutions hein, qui se font. Et puis, ça, j'ai retrouvé ça donc, dans une homélie qu'avait fait le Pâques pour Pâques. Bon, je l'ai réutilisé à ma façon, hein, sur l'idée que, comme une nouvelle flamme, une bonne nouvelle s'est allumée dans la nuit, une blessure peut devenir fissure d'espérance. Donc, je vous ai parlé de blessure hier. Hein, je trouve que dans le contact que j'ai avec vous qui êtes dans le domaine de la pastorale du sport, ça me permet en termes de psychologue peut-être d'avoir une vision un peu plus large hein, de ce que peut être une blessure. Donc pas simplement quelque chose qu'il faut réparer et puis permettre à la personne de repartir comme si de rien n'était, mais que de considérer que dans cette fissure, bah, l'espérance peut avoir une place. Alors je pense, Alexandra, que tu n'as pas forcément entendu la même chose que moi, mais si tu as des remarques complémentaires sur la sensibilité que tu as pu avoir dans les échanges qu'on a eus, qui n'est pas forcément un exercice facile.
Je n'ai pas à faire. Un bon retour. Des retours, je trouve, mais... Une chose qui a été dite par Anthony Lepascu, le président du Olympien de Rome.
Jean-Paul Hugues pour le soir, qui disait que à cause de la pandémie, pour la première fois, le sport est devenu en fait un espace négatif. Et ça j'ai trouvé assez parlant en fait, parce que c'est vrai qu'on considère en général le sport plutôt comme quelque chose de positif pour la santé, pour simplement dans le domaine de la rencontre. Et en fait, la pandémie remet en question vraiment les fondements du sport parce que le sport, justement, il devient quelque chose de négatif parce qu'il fait que les gens se rencontrent, ont des contacts entre eux. Et donc, ça remet en question la notion de communauté. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez parlant et un bon input aussi pour la réflexion. Voilà, ce que je voulais juste ajouter pour l'instant. La parole à l'Assemblée.
Voilà, si vous avez des échos, des. Un petit peu de cette synthèse orientée. Donc tout s'est fait en anglais, donc effectivement l'anglophonie était présente. Hein, mais je pense qu'en tant que francophone, on a quelque part à défendre la francophonie, justement, en utilisant la langue anglaise. Hein, c'est comme ça que, quelque part, les échanges se font.
Tu as parlé, Gilles, de la force dans les écoles.
Oui.
Est-ce que, justement, il a été question de la résilience ? Je vais revenir sur la définition de ce terme.
Alors, il a été question de la résilience. Alors, plus comme un terme étant un allant de soi, mais qui mérite effectivement d'être reprécisé. Hein, c'est-à-dire que, alors bon, là, pour moi, la précision à faire, c'est que j'aurais tendance à dire que la résilience sans lâcher prise n'est pas résilience. Et donc, ça interroge effectivement la capacité de la personne à se laisser bousculer par quelque chose qui est incertain, qui est inattendu, et d'accepter que, bon, je l'ai dit de l'autre façon, que rien ne sera comme avant, mais que quelque part, il y a un autre chemin qui s'ouvre, que je n'avais peut-être pas prévu, et qui va faire que quelques mois après ou quelques années plus tard, je m'aperçois que finalement, heureusement qu'il y a eu ce kairos, ce moment opportun qui est arrivé, alors que sur le coup, j'avais vraiment l'impression que ce qui m'est arrivé... Je pense que le mot résilience, comme beaucoup de mots, mérite constamment d'être reprécisé, et notamment avec les personnes que l'on accompagne, que les personnes qu'on ne leur impose pas ce mot hein, dans les échanges, mais qu'éventuellement on puisse se dire, tiens, cette personne-là est en train de me raconter un itinéraire qui, dans mon background théorique, s'appellerait résilience, mais que le jeune homme ou la jeune femme va nommer de façon différente. Mais pour moi, le mot qui reviendrait le plus souvent d'une authentique résilience, c'est vraiment cette idée de lâcher prise. C'est-à-dire, j'accepte que le chemin vers lequel j'allais, à un moment donné, n'est plus, et que je me retrouve ailleurs, et que cet ailleurs, peut-être, c'est peut-être mon chemin qui est véritable. Voilà ce que ça m'évoque dans ta remarque. Mais la notion de résilience était présentée. Maintenant que tu poses la question, pas suffisamment interrogée hein, depuis ses origines.
Intéressant de lâcher prise, mais de ne pas se laisser aller. Ce qu'on a vu chez certains sportifs de niveau qui se sont mis en scène, je pensais, j'ai vu sur, c'est le Vendée Globe qui est parti il n'y a pas longtemps. Non, lui, demain. Donc c'est une préparation, il y avait une athlète qui montrait comment elle avait pris son vélo, elle faisait les gestes qu'elle a sur son bateau, son mari lui envoyait de l'eau sur elle, il prenait les jets d'eau, il reproduisait les conditions quelque part, il se mettait en scène pour continuer à se préparer dans l'éventualité où le départ se ferait. Donc en fait, quelque part, de se reconditionner à un événement et de se préparer à son éventualité dans des conditions complètement humaines, mais de... Quelque part, il y a un lâcher-prise, mais on ne s'arrête pas. Et le problème, c'est que certains sportifs se sont complètement arrêtés. Et ce problème de l'anxiété et de la dépression, et certains peut-être ne reviendront pas à leur niveau parce qu'ils ont abandonné finalement la course.
Et l'évocation que j'ai, c'est de considérer aussi que les règles du jeu pour Tokyo 2021 ne sont plus tout à fait les mêmes que celles de Tokyo 2021. Non. Dans certaines fédérations, hein, ceux qui étaient quelque part sélectionnés pour l'été 2020, quelque part, ont vu les règles modifiées, hein, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, et que là, effectivement, il y a à la fois nécessité de lâcher prise, mais en même temps d'être toujours connecté avec un objectif qui a évolué, et qui n'est plus du tout le même objectif, et les adversaires ne sont plus du tout les mêmes. Donc là, on a, alors là, je parle en tant que psycho du sport, mais on peut retrouver dans vos accompagnements, hein, ce difficile équilibre entre accepter, mais je reprends ta formule, hein, on lâche prise, mais en même temps, on n'a que 2021 qui est très flou, mais qui est aussi à prendre en compte si je veux, hein, quelque part, y participer.
D'ailleurs, c'est étonnant, c'est Teddy Riner qui disait disait sur France 3, que quand il a vu le report, il a dit non, bah, c'est bon, j'arrête. Il a eu ce moment, ça a duré une nuit, mais après avec l'entourage, mais de se dire, c'était déjà dur de revenir jusqu'à ce niveau-là, un an de plus. Donc lui, bon voilà, après il a tous les enjeux et peut-être le bon accompagnement, mais pour d'autres, on imagine que ça peut être compliqué dans l'isolement de repartir.
Et qui remet en lumière le résultat sur les interclubs. Hein, bon, effectivement, il a une défaite contre celui avec qui il s'entraîne habituellement. Donc c'est très bien pour celui qui l'a battu, mais de voir que c'est peut-être aussi un bon signal, hein, entre le principe de réalité et puis un autre principe qui fait que depuis qu'il a 18 ans, hein, il est dans un processus. Et là, il y a un autre jeu qui s'installe.
On peut intervenir.
Oui, oui, vas-y, Alain.
Il y a un article dans Le Monde là, qui rend compte d'un livre qui vient de sortir, d'une historienne, et qui raconte, qui repart des récits des orphelins du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors vous allez me dire pourquoi je vous ramène ça. C'est parce que elle explique là-dedans que ces enfants qui ont vécu des choses horribles, eh ben, on est loin d'un récit de résilience. Voilà, je lis ça. Alors, je me dis que, de fait, la notion de résilience, il faut quand même l'interroger. Je pense que c'est une très belle notion, hein, mais en même temps, voilà, quand des gens ont vécu des choses tellement dramatiques, jusqu'où ça fonctionne, et qu'est-ce qui se passe dans l'après, quoi. C'est ça, voilà. J'ai envie de lire ce livre. Et si Justice et Paix Suisse avait fait des choses avec les grands lacs à travers le sport, c'est pas par hasard non plus. Voilà, c'est des gens qui ont vécu des choses dramatiques. Alors, c'est pas des sportifs de haut niveau, hein, on est dans autre chose. Mais quand même, là, sur la notion de résilience, je crois que ça peut être intéressant de lire des bouquins comme celui-là aussi, quoi.
Et ce qui me fait penser à ce que j'appellerais l'étiquette résilience. C'est-à-dire quand l'étiquette est mise sur une personne avec le mot résilience, c'est souvent plus difficile à comprendre pour la personne ce qui se passe, hein, que si quelque part on laisse la personne échanger et donner du sens un peu à ce qu'elle vit réellement. On a plein de mots comme ça qui sont des mots tout à fait intéressants d'un point de vue théorique, mais qui ont beaucoup moins de poids dans dans ce qu'on appelle la présence, quoi. Effectivement, bon, tu parlais, hein, si je parle de liturgie, etc., je suis peut-être pas à ma place. Nous, en tant que psychologue, si on commence à utiliser nos gros mots, etc., etc., ça n'a aucun impact, hein, avec la personne avec qui on est, quoi. Donc peut-être la notion de présence, hein, je trouve que c'est une notion aussi qui peut intéresser d'autres personnes qui ont accompagné ces personnes qui vivent des situations extraordinaires, tant au niveau de la souffrance que de la performance. En sachant que dans le sport, la notion de souffrance et de performance, hein, peut être intimement liée.
Je voudrais juste faire une petite remarque par rapport au diapositive que vous avez passé à un moment donné, vous avez parlé de la passe-train de la santé.
Oui.
Et du coup, ça m'a fait penser à un projet dont on n'a pas du tout parlé, c'est le sport santé. Vous l'avez fait, c'était très engagé. Mmh. Qui touche des gens en infection de l'urine, en rémission de cancer, et quand vous avez parlé aussi d'activité physique adaptée, ça a aussi résonné en moi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se forment aussi dans cette matière. Et je me dis que là aussi, peut-être la pastorale du sport pourrait rejoindre ces gens qui sont parfois en difficulté avec leur corps, ou pas beaucoup de surpoids-obésité, mais on essaie de travailler cette thématique. Peut-être que c'est un volet aussi qu'on n'a pas beaucoup abordé, on a beaucoup parler du sport, compétition, performance. Et à la FSF, on est très attaché à cette démarche sur le sport santé. Peut-être aussi que ça serait un volet ajouté dans la pastorale du sport. Enfin, c'est en voyant différents éléments, en entendant parler de sport adapté, que je pense d'activité physique adaptée, je me dis qu'il y aura peut-être aussi, par rapport à la santé, aussi des gens qui sont en recherche, en questionnement, et qu'on peut-être les rejoindre aussi.
Pour faire le lien avec la crise du Covid,
ça met quand même en évidence l'importance de la santé globale, de la santé publique.
Exactement.
Et donc de dire que si on veut promouvoir le sport, c'est aussi, parce que l'Église aussi un rôle pour promouvoir le sport, bah, c'est aussi permettre à des gens d'être en meilleure santé dans leur corps. Et donc ça c'est la population globale, et peut-être que la crise actuelle va aussi aider à prendre conscience de ça.
C'est ça, prendre conscience. Et les agences régionales de santé insistent beaucoup justement, mettent beaucoup un accent sur la pratique du sport comme vecteur de santé. Peut-être que c'est un axe dont on n'a pas beaucoup parlé, mais...
Alors je compléterai par.
C'est pas les jeunes, c'est moins les jeunes. C'est encore que sur l'obésité, par exemple, ça touche beaucoup les jeunes.
Je compléterai.
Ils n'osent pas justement passer la porte d'un club parce qu'ils ont peur d'être
déçus. Alors là. La formulation marketing, entre guillemets, mais positive, hein, c'est de parler d'activité physique adaptée à chaque âge de la vie, pour rappeler effectivement que. Hein, il y a le troisième âge, il y a le quatrième âge, il y a différentes pathologies qui concernent différentes personnes. Et donc, effectivement, bon, la FSCF, comme d'autres fédérations...
Oui, il n'y a pas que nous, on parle.
Alors, en sachant que l'ARS ayant quelque part valorisé cette notion de sport santé, hein, il y a beaucoup de clubs aussi qui se sont mis sur ce créneau. Et tant mieux pour ceux qui peuvent en bénéficier, mais ça élargit notre définition du sport. Hein, donc sur d'autres aspects. Et donc bientôt, Alain, tu auras une définition du sport intégrale qui touche à la notion d'écologie corporelle et en lien avec Laudato aussi. C'est un engagement de toutes les personnes qui sont présentes ici. Donc je me fais le porte-parole.
Super.
C'était enregistré.
Oui, c'est enregistré. Hein, donc, on pourra le ressortir s'il y a besoin.
Rien ne sera plus comme avant. Si je retourne demain chez moi, j'ai une lecture que je vais avoir par rapport à l'entraînement que j'assume avec les autres amis. Je vois des modifications profondes sur l'inquiétude des championnats. On sent que ça va encore deux ou trois arrêts comme ça. Et. On va commencer à réfléchir sur l'éducatif, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un championnat comme avant. Et l'exemple, je repense aussi aux deux encycliques qui viennent de sortir, là aussi, Tutti Frutelli, qui...
Fratelli Tutti.
Parce que l'une nous engage sur l'écologie, c'est-à-dire sur le respect de l'environnement, s'entraîner dans des milieux, on voit bien que en extérieur, c'est que le projet, c'est compliqué. Et l'autre engage sur la fraternité. Et je trouve qu'on va peut-être découvrir ce qu'on ne voit pas bien clairement actuellement, c'est que le sport devient aussi écologique et fraternel. La remise en cause aussi, je pense, de bobos, entre guillemets, qui fréquentent des salles de fitness en tout genre, et qui coûtent très cher. Et puis en même temps, on a des sports pour les pauvres. Et c'est des questions un peu très spirituelles, je dirais, très chrétiennes, c'est un moyen peut-être de regarder tout ça qui va se passer. À qui en parler, comment en parler, on n'a pas beaucoup d'endroits, on n'a même pas d'endroits du tout. Et c'est peut-être un des moyens de réfléchir aux enjeux majeurs qui vont. Où va-t-on? Je ne sais pas. J'en sais pas moi-même, mais je sens que. On ne pourra pas continuer comme ça. C'est vrai. Pour les parents, pour les éducateurs.
Gilles?
Là, je m'adresse au psychologue.
Intelligent.
Ça dépasse le cadre de notre thématique, mais on entend beaucoup ce discours. Il y a eu l'avant, il y a l'après, rien ne sera devenu plus comme avant. Bien sûr, pour un certain nombre de personnes, pour un certain nombre de structures, etc. Mais pour le commun des gens, l'expérience montre que il y a une période difficile et puis après la vie reprend comme avant. On oublie, on a grugi le personnel soignant au balcon en faisant beaucoup de bruit et puis 6 mois plus tard, on est allé à l'hôpital, on a été promis à traiter tous les noms parce que ça ne se passe pas comme on veut. Alors on oublie très vite, quoi. Et finalement, pour un certain nombre de sportifs, alors je ne parle pas tellement là pour le tout venant, mais au niveau des sportifs qui sont très investis, psychologiquement, il y en a certainement qui ne vont jamais s'en remettre. J'arrive pas trop à évaluer ça. Il y a ceux qui, quelque part, qui prennent conscience qu'il y a eu une tempête et puis qui ont conscience que ça laisse des séquelles en eux. Voilà, parce qu'on est dans l'incertitude, on est fragilisé. Bon, donc on a conscience qu'il faut laisser des séquelles en nous. Et puis il y a ceux qui ne réalisent même pas que ça a laissé des séquelles en eux, qui reprennent la vie comme si c'était comme avant. Et voilà, cette part-là, je l'évalue mal, quoi.
Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est que la personne qui ferait comme si rien n'avait changé, le corps va être là pour lui rappeler, d'une manière ou d'une autre. Bon, là, je touche à ce qu'on appelle la psychosomatique, sur le fait qu'effectivement, les mémoires du corps ont quand même une force. Phénoménal, et que quand alors je rejoins l'idée de résilience, je continue le chemin coûte que coûte, bon, je me prends la barrière une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment donné le corps va se dire, bah, tiens, j'avais pas vu qu'à côté de la barrière il y avait un autre chemin, quoi. Mais en même temps c'est un bon exercice, j'allais dire, d'humilité. Alors je me situe en tant que psy, mais voilà, pour considérer que nos croyances théoriques sont quand même fortement, pas mises à mal, mais nécessitent d'être revues par rapport à une situation vraiment concrète. Là, on n'est plus dans la théorie, alors que j'appelle la psychoscientifique, c'est-à-dire statistiquement, on s'aperçoit que pour 66% des personnes, voilà ce qui se passe, mais statistiquement, on ne s'occupe pas des 33% qui... on est obligé de s'intéresser, peut-être justement à ces 33% qui quelque part, sont... concerné à ce que j'appelle la quête ultime de quelque chose, qui n'est pas forcément la mort, mais qui est aussi une dimension qui vaut peut-être la peine d'être vécue, mais on n'a pas forcément envie de le vivre, nous, de façon concrète, quoi.